France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Une œuvre non classée, comme on parle des classements au tennis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est parce que ce n'est pas une œuvre qui a un numéro d'opus. Bref, peu importe. Bonjour Marie Perbost.
Bonjour.
Chanteuse soprano, à partir du 10 octobre, vous serez sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles, qui célèbre à la fois cette année ses 250 ans et les 10 ans de sa réouverture, avec Richard Cœur de Lion d'André Modeste, Gretry, dirigé par vous, Hervé Niquet. Bonjour Monsieur Niquet.
Bonjour Monsieur Urbain.
En résidence, cette année, avec trois productions à Versailles, Richard Cœur de Lion, c'est donc la semaine prochaine du 10 au 13 octobre. C'est aussi la première fois qu'un spectacle, Ai-je appris, est entièrement produit par le Château de Versailles Spectacle, cette partie production spectacle de Versailles. Vous êtes en ce moment en pleine répétition, j'imagine.
Ah oui, il ne faut pas traîner d'ailleurs, parce qu'on a répétition à 10h30. Je
vous rends à l'art dès 9h. Vous êtes prêts?
On y va.
Très. C'est une musique difficile, ce Gretry.
Comme des choses délicates, c'est pas difficile, sauf que c'est délicat. Et si on veut être pimpant, mordant, drôle, poétique et efficace, parce que c'est mené de main de maître, c'est une comédie musicale, d'ailleurs, Marie va vous raconter, il faut qu'il danse, qu'il parle, il y a des textes, tripotés de textes, mais alors drôlatiques. Enfin, c'est Broadway avant l'heure, donc je peux vous dire, tout est réglé. En plus, on a un metteur en scène, Marshall Pinkowski, qui est hystérico-maniaque, c'est-à-dire le moindre petit doigt est en place et on répète pendant des heures. Alors au début, on se fait sacrément chier, et puis en fin de compte, il est têtu comme c'est pas possible. Et puis on fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, au bout de la vingtième fois, on cède, c'est, on fait bien, et ça marche. Donc voilà, c'est Broadway.
Marie Perbost, vous dansez ?
Absolument. Par la force des choses, c'est assez intéressant parce que c'est des metteurs en scène qui, donc danseurs. C'est vrai qu'au premier abord, nous, chanteurs lyriques, c'est pas forcément notre formation de base. Et on est obligé de se plier à ces exigences. Et c'est assez magique parce que finalement, il y a quelque chose d'un peu... C'est une espèce de fantasme non assouvi. Tout d'un coup, on se retrouve à devoir faire du Broadway. Et nous, chanteurs classiques français...
À l'Opéra Royal de Versailles.
Ah non, mais ça rend complètement fou. Dans des robes de rêve, se retrouver avec 20 hommes à genoux, nous et les bras en croix, on fait jamais ça sous la pluie de paillettes. Moi, je dois dire que je vis un fantasme absolu.
Et donc, le petit doigt avec un
alors,
metteur
par contre,
en scène
on a des courbatures.
Hystérico-maniaque, c'est ça?
On a des courbatures aux bras parce qu'ils sont vraiment très souvent levés.
Alors, Gretry, ce Richard Cœur de Lion, il y a un tube, on va en parler dans un instant, au Richard, au bon roi, l'air de Blondel. Moi, j'ai choisi un réjouissant quatuor, enregistrement il y a quelques années, 1977.
C'est la part du gouverneur m'a dit de lui remettre ses idées. Le gouverneur de ce château.
Alors retenez point ça.
Pour écouter un séducteur, monsieur le gouverneur, fait beaucoup trop d'honneur.
Revois ce séducteur, tu sentiras s'il est dans mon bras. Il est encore quelque vigueur.
Dis-moi, mon père, je le vois bien, le gouverneur, m'a envoyé, moi, il est mon père.
veux pas de ce bonheur. Ne parle plus au séducteur, ne parle plus au séducteur.
La paix, la paix.
Tu sentiras, tu n'en auras, il est en temps que je m'ouvre. Tu sentiras, si t'en auras, si t'en auras, il est le bonheur de chaque bonheur.
Extrait du premier acte de Richard Cœur de Lion de Grétry avec les voix de Maddy Mesplé, Michel Trampon, Jean Van Gorp, Charles Burle, l'orchestre de chambre de la RTBF dirigé par Edgar Donneux. C'était en 1977. Nos invités ce matin, Marie Perbost, à l'affiche du nouveau Richard Cœur de Lion à l'Opéra Royal de Versailles dirigé par Hervé Niquet. Cet enregistrement, Hervé Niquet, vous le connaissez, vous l'avez écouté?
Oui, évidemment. D'abord parce qu'il y a deux chanteurs que j'adore, c'est Michel Trampon et Maddy Mesplé, qui ont quand même fait les beaux jours de l'opéra, de l'opérette. C'est des gens qui ont une diction extraordinaire, qui ont un abattage. Moi, j'ai travaillé avec eux, surtout Michel, et c'est des monstres de « je suis là » et puis « je défends le morceau », quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit. Donc, c'est, non, moi, j'aime beaucoup cet enregistrement.
En revanche, Marie, vous disiez, en écoutant, ce que vous faites à Versailles va être très différent.
Bon, oui, c'est sûr que vocalement, on a tous beaucoup évolué. Je pense que nos voix et notre façon de travailler est différente. Mais cela dit, on retrouve des points communs.
Étonnante histoire que celle de cet opéra, Richard Cœur de Lion. Non pas l'argument, retour de croisade, Richard, Jean Santerre, tout ça. Mais l'histoire de l'opéra lui-même, de 1784, sa création jusqu'à aujourd'hui. C'était... un tube de l'époque, tout le monde connaissait les airs de Richard Cœur de Lion.
Ah bah oui, faut quand même savoir, là ça fait rêver les producteurs, ou ça ferait rêver les producteurs actuellement, entre la création et tout le 19e siècle, rien qu'à Paris, on a donné l'ouvrage plus de 1500 fois, vous imaginez ? C'est ahurissant, c'était vraiment, alors l'air principal est devenu un thème royaliste, évidemment une chanson royaliste, mais outre ça, ça a été un tsunami, parce que pour une fois sur scène, on ne parlait pas des histoires de fesses des dieux sur l'Olympe grec ou romaine, mais ça se passait au Moyen-Âge. Et puis il y avait une vraie bataille chorégraphiée, puis les murs tombés du château, et puis surtout il y avait un happy end, et puis surtout ça parlait, ça dansait. Donc c'était un genre de tragédie lyrique vachement rigolote qui se termine bien au Moyen-Âge, c'est-à-dire dans une réalité, puis ça va être un tsunami scénique, parce que ça va révolutionner la conception des types qui faisaient les livrets, où ça pouvait se passer maintenant. Donc voilà, ce type truc a été une révolution. Et puis aussi, c'est un alibi. Et là, il faut remercier Laurent Brunner, le directeur de CVS,
le château de Versailles.
Voilà. Faut pas oublier que une fois que la Révolution française a fait son œuvre à Versailles, plus rien n'a été produit au château de Versailles, à l'Opéra Royal. Depuis 1790.
Une grande réouverture il y a une dizaine d'années.
Voilà. Mais ce n'était qu'un garage royal, certes, c'est-à-dire il accueille ce qu'on appelle un garage dans le métier, il accueille des productions mais qui sont déjà faites. Et c'est la première fois depuis 250 ans que de zéro, on fait une production, on répète là-bas. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de grande salle. Il y a 1800 pièces dans le château, mais il n'y en a pas une grande pour répéter. Et c'est la première fois que Laurent Brunner, là, remet ce théâtre en ordre de fonctionnement, de création. Ça, c'est vraiment historique, il faut le remercier.
Et puis, cet opéra comique de Grétry a aussi... une histoire lors de la Révolution, du début de la Révolution, avec cet air.
Oui, oui, au Richard, au Mont-Roi, quand les révolutionnaires sont venus scandaliser, engueuler le roi et la reine, eh bien la garde blanche, les gardes rapprochées de Louis XVI, ont défendu le roi au son de « Au Richard, au Mont-Roi ». Puis c'est devenu un hymne royaliste. Voilà. Donc c'est une jolie histoire de France.
Dernière air entendue par le couple royal à l'Opéra Royal avant qu'il ne quitte Versailles. Marie-Pierre Bost, quel type de mise en scène signe Marshall Pinkowski? On a parlé de son style, mais on est dans une reproduction à l'identique de ce qu'on pouvait voir en 1784, dans
alors,
ces années-là.
Il me semble que les décors, tu m'arrêtes Hervé si je dis une bêtise, mais il me semble que les décors nous ont été prêtés par le CMBV, que les choses sont assez... Il y a une volonté d'authenticité au point de vue costume et décor. Enfin, j'ai essayé déjà plusieurs de mes tenues qui sont vraiment volontairement dans un style de l'époque. Donc on est quand même sur une esthétique visuelle on essaye de retrouver les couleurs de l'époque. C'est plus dans le style de physique, le corps, où on va être dans quelque chose de plus moderne.
Vous avez deux rôles, dont la comtesse, donc la femme
de Richard, de mon beau Richard.
Mais qui n'a pas d'air elle-même, qui n'a pas de solo.
Effectivement, en fait, ça, comme on disait, c'est quand même un opéra comique avec énormément de dialogues. Donc ma comtesse, elle a beaucoup de scènes de théâtre, parce que j'ai la chance d'être avec des camarades qui sont tous d'excellents acteurs, en plus d'être de grands chanteurs. Et ça, on le travaille énormément, le rythme de la comédie théâtrale, il y a beaucoup, beaucoup de textes, et il est très soutenu. C'est ça qui nous épuise, mais nous rend complètement... C'est très grisant.
Un enregistrement est prévu à la clé de ce Richard
Évidemment, monsieur Urbain. On fait une captation, et puis ensuite, on fait ça en studio, on enregistre ce... loin des mouvements et tout ça, pour avoir une trace vraiment de ce monument historique.
Voici la trace d'Andromaque de Grétry, c'était il y a une petite dizaine d'années.
Je l'enlève, ou bien que je périsse. C'est traîné trop longtemps ma vie et mon supplice. Je veux, en l'arrachant de ces funestes lieux, lui faire partager mes maux, mon infortune. Mon innocence enfin me pèse et m'importune. Je veux justifier l'injustice des vieux. Je veux que l'ingrate par étage en désespoir et ma fureur. Je veux que ce cœur qui m'outrage connaisse à son tour la douleur. C'est mon gémir tout seul. Il faut que l'inhumaine répande autant de pleurs qu'en ont versé mes yeux. Je veux justifier ses dédains et sa haine. Je veux justifier l'injustice des dieux. Je vais seul enlever Hermione, fuyais-je malheureux que le destin poursuit.
Extrait d'Andromaque de Grétry, c'était Tassis Christoyanis, le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, il y a 9-10 ans à peu près. Grétry, donc Richard Cœur de Lion, c'est du 10 au 13 octobre à l'Opéra Royal de Versailles avec vous deux, Marie-Pierre Bost, Hervé Niquet. Vous nous avez donné envie d'aller découvrir ce Richard Cœur de Lion qu'on ne montre jamais et qu'il faut absolument voir dans cette mise en scène qui a l'air diabolique et hystérique. Là, cette Andromaque que vous aviez enregistrée il y a 10 ans, encore un autre aspect de la musique de Grétry. Pourquoi Pourquoi est-il tombé dans un certain relatif oubli?
Il ne faut pas oublier que les modes changent et c'est ce qui fait le répertoire en fin de compte. Une fois que le compositeur est mort ou la mode qui va très très vite, puis s'il n'a pas eu les moyens de l'éditer, ça tombe un peu dans l'oubli parce que qui va aller rechercher dans les bibliothèques du matériel manuscrit si c'est pas édité. Enfin, c'est vraiment problématique. Donc il y a une foultitude de choses qui sont rue Richelieu là dans les cartons ou à la bibliothèque de l'Opéra dans les cartons. Tout est là, mais personne veut le jouer parce que il y en a des tonnes, mais il y en a. Regardez la production de Gretry. Donc voilà, moi, ça m'étonne pas. Il y a d'autres choses et d'autres compositeurs qui sont passés depuis 1784. Donc voilà, il faut attirer le public.
Marie Perbeau, vous aviez déjà chanté du Gretry dans votre carrière?
Non, pas du tout. Et même pas étudié à l'école. Ce qui est surprenant, parce que...
C'est scandaleux.
C'est un scandale. On va faire un procès au conservatoire.
Alors, cet enregistrement qu'on vient d'entendre, il a été... monté en partie avec la fondation Bru, qui fête ses 10 ans, le Palais Zetto ou Bruzane, c'est ce centre romantique de musique française qui est à Venise avec des productions un peu partout en France. Grand concert de gala.
Pas seulement qu'en France, dans le monde entier.
Ah oui, à Venise, surtout.
Venise, et puis à France, ça rayonne en France, et pas seulement à Paris, c'est ce que je voulais dire. Ce concert de gala, c'est au Théâtre des Champs-Élysées à Paris lundi prochain, c'est vous qui le dirigez, Hervé Niquet. Qu'est-ce qu'il a apporté ce centre de musique romantique français en 10 ans?
Qu'est-ce qu'il a apporté? Madame Bru, qui est donc la mécène qui chapeaute tout ça, qui a décidé tout simplement de sauver le patrimoine romantique français. Rappelons que tous les éditeurs historiques français ont été rachetés par des Allemands et des Américains, qu'ils ont juste entretenu le fonds, qui était parfois mal entretenu, mais il n'y avait plus aucune recherche, ils avaient un fonds considérable. Aucune remise à niveau, aucune recherche, aucune nouvelle édition, ce qui fait qu'on était en train de... C'était très problématique de jouer de la musique française jusqu'à il y a 10-15 ans. Et là, avec le travail, grâce à l'aide de Madame Bru qui a fondé ce centre, et au travail d'Alexandre Radvicki et toute l'équipe du Palazzetto Bruzane, qu'on appelle vulgairement le PBZ, là, cette année, dans le monde entier, il y a à peu près 600 productions, coproductions, aides, soutiens, recherches, ou une ligne de recherche ou d'édition pour des productions dans le monde entier. Donc ça a réveillé complètement l'intérêt des producteurs et du public et des chercheurs sur notre répertoire français. Alors, Cocorico.
Vous avez participé à beaucoup de productions. C'est quoi, peut-être, pour vous, en 10 ans, votre plus grande découverte? Qu'est-ce que vous avez parmi les compositeurs que vous ne connaissiez pas ou peu?
Écoutez, là, j'ai regardé en 10 ans, j'ai enregistré à peu près 40 CD de musique romantique française avec le.
Énorme.
Ah, c'est énorme, oui, là, en 10 ans, c'était... Alors, j'ai des compositeurs invraisemblables, mais Max Dolon, je ne sais pas si vous connaissez Max Dolon, on connaît à peu près le nom, mais c'est ahurissant. Alors, il y a aussi d'autres choses, il y a Monsieur Charlot, il y a Monsieur Defesse, Monsieur Véronge de Lanux, enfin, des auteurs insensés, et Monsieur Defesse, vous savez qui est le légataire des œuvres, c'est Monsieur Ayagon, quand même, c'est de la famille Defesse. Donc voilà, c'est des choses, tout est dans les cartons. Il suffit de se pencher, et Théodore Dubois, on a tous souffert au conservatoire sur le traité d'harmonie de Théodore Dubois, ce type est un génie.
Vous avez découvert, vous, avec ce travail du Centre de musique romantique française?
Eh bien oui, parce que...
Des musiques,
absolument.
Ces 10 dernières années, Marie.
En fait, Alexandre Radvicki m'a particulièrement aidé pour...
Qui est le directeur scientifique du
absolument,
Centre.
Absolument, bravo. Et il nous a beaucoup aidé à trouver du répertoire de qualité et jamais enregistré, notamment pour le dernier disque que j'ai sorti, où effectivement, qui est aussi consacré à la musique parisienne de cette époque romantique. Et effectivement, il m'a trouvé des petites perles que j'ai pu enregistrer avec grand plaisir.
Concert de gala que vous dirigez, Hervé Niquet, avec le concert spirituel au Théâtre des Champs-Élysées à Paris lundi prochain. Et puis, vous entendez ce coffret 10 CD, ça s'appelle The French Romantic Experience, qui n'est pas pour le coup très français, une espèce de florilège, ça c'est beaucoup plus français, de 10 disques avec un peu tout, de la cantate, de l'opéra, du piano, de la musique de chambre et de la musique symphonique. parmi les 40 disques enregistrés par Hervé Niquet en 10 ans avec le Centre de musique romantique française, il y a cette perle du Brésil, l'ouverture Félicien David. Là aussi, une découverte, Hervé Niquet, vous étiez avec le Brussels Philharmonique.
Oui. Alors, ça aussi, c'est formidable. En France, c'est quand même assez compliqué de mettre sur le pupitre des musiciens des grands orchestres du répertoire français. Donc voilà, on a été à l'étranger et chez les Belges, je me souviens, il était 9h30 du matin quand on a commencé à lire ça. Pétard, ils y vont, ils ont pas d'a priori, ils jettent là-dedans. On a enregistré ça, il y a deux prises là-dedans. Et voilà, l'appétit pour pas mal d'orchestres étrangers pour le répertoire français, moi je trouve ça formidable. Youpla boum.
Marie Perbost, vous parliez de votre dernier disque, mais il y en a un nouveau, il vient de sortir vendredi. Oui. Vous participez à ce disque, c'est le premier, je crois d'ailleurs, de la Chapelle Harmonique.
Absolument.
Du tout jeune Valentin Tourné qui s'attaque à Bach au Magnificat, mais un Magnificat absolument différent de celui qu'on connaît, parce qu'il y a le célèbre Magnificat en Ré, et là c'est celui qui est 10 ans plus tôt en mi bémol majeur, avec des airs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément dans l'oreille.
Absolument, il y avait de très légères variations, et c'était assez troublant, parce qu'on l'avait vraiment, nous par contre, vraiment bien l'autre version dans l'oreille, notamment avec tous mes collègues de l'ensemble. On était beaucoup étaient des musiciens déjà très très habitués, ils ont déjà tous chantaient avec Hervé, et du coup c'était parfois troublant, mais très amusant de redécouvrir ce répertoire. La prononciation notamment est différente, vous pourrez l'entendre.
Magnificat de la Nativité, voici un air Virga, on prononce comme ça, alors Virga Jesse Floruit.
Exactement.
Ah. Extrait de ce Magnificat de la Nativité, le premier Magnificat de Jean-Sébastien Bach, Marie Perbost, Stéphane MacLeod et la Chapelle Harmonique dirigée par Valentin Tourné. C'est un disque qui vient de sortir, produit par Château de Versailles Spectacle.
Encore eux !
On y revient. La Chapelle Harmonique d'ailleurs qui sera en concert demain, le Messie de Handel que vous connaissez bien, c'est si bien Hervé Niquet. Ce sera la Maison de la Radio demain soir. Merci à tous les deux. On court à l'Opéra Royal de Versailles, c'est du 10 au 13 octobre. Richard Cœur de Lion, Gretry, et juste avant ce concert de gala au Théâtre des Champs-Élysées pour fêter les 10 ans de la fondation du Palazzetto Bresanè de Venise, le Centre de musique romantique française. Merci à vous.
Un grand merci.
À réécouter sur francemusique.fr.